Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je vous souhaite un très agréable sabbat. Quand on étudie l'histoire séculaire du christianisme, nous obtenons des renseignements précieux qui nous permettent de retracer l'histoire du petit troupeau que Jésus-Christ a rassemblé et qu'il a appelé son Église. Les apôtres l'ont appelé à plusieurs reprises dans les Écritures l'Église de Dieu. Mais cette Église est très différente du courant majoritaire, appelé très souvent christianisme, et qui, dès le IIIe siècle de notre ère, a commencé à prendre forme pour se répandre à une cadence hors de proportion à travers le monde entier. Et dans l'histoire séculaire du christianisme, il existe une appellation particulière, celle de ceux qu'il est convenu d'appeler les pères de l'Église, ou les pères du christianisme. La question restant de savoir de quelle Église parlons-nous. L'un de ces pères de l'Église était Aurelius Augustinus, ou Augustin d'Hippone, celui que la plupart des philosophes et des érudits catholiques appellent Saint Augustin. Augustin d'Hippone était un philosophe et un théologien ayant vécu au IVe et au Ve siècle de notre ère, de 354 à 430 de notre ère. Il est considéré comme l'un des principaux inspirateurs de la théologie catholique. Mais il faut cependant bien comprendre qu'Augustin a exposé ses propres idées aussi. Et de fait, il a promu, en voie de conséquence, des changements majeurs dans les doctrines enseignées par Christ et par les apôtres. Voici ce que note l'Encyclopédie britannique, édition 1911, dans son article sur saint Augustin. La position et l'influence théologique d'Augustin peuvent être considérées comme sans équivalent. Aucun nom n'a jamais exercé un tel pouvoir sur l'Église chrétienne. Et aucun esprit n'a jamais laissé une empreinte aussi profonde sur la pensée chrétienne. Le jugement des catholiques proclame toujours les idées d'Augustin comme la seule base de la philosophie. Et c'est Augustin d'Hippone qui inventa par exemple le terme « sermon sur la montagne » dans son commentaire latin sur l'évangile de Matthieu. Ce terme devint ensuite une appellation courante dans les Bibles. Dans son raisonnement philosophique et théologique, il est clair qu'Augustin a été fortement influencé par les philosophes grecs et leurs théories païennes du stoïcisme, du platonisme et du néoplatonisme. Et ces concepts sont devenus dominants, par voie de conséquence, dans l'Église romaine, à tel point qu'ils prirent carrément l'ascendant sur les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Examinons maintenant la vie d'Augustin d'Hippone, à la lumière de la vérité historique, non pas pour essayer de dénigrer l'homme, mais d'ailleurs Dieu désire le voir un jour dans son royaume, lui aussi bien sûr, mais pour comprendre les tours et les détours de la pensée philosophique d'Augustin tout au long de sa vie, et pour mesurer son impact phénoménal dès les âges sombres sur la pensée et sur les idées dites chrétiennes. Augustin d'Hippone est né en Afrique du Nord, non loin de la région de Carthage, l'actuelle Tunis, en Tunisie, et dans une partie de sa jeunesse, il a vécu un style de vie plutôt hédoniste, c'est-à-dire centré sur les plaisirs de la vie, et même faisant des plaisirs le but de sa vie. Et il noue alors une relation avec une jeune femme qui sera sa concubine pendant plus de 15 ans. Certains disent pendant 13 ans. Quoi qu'il en soit, il a un fils de cette compagne. À Carthage, Augustin est éduqué dans la religion manichéenne, un syncrétisme de plusieurs religions orientales, perses, indiennes, avec un mélange aussi avec la religion sémitique. Quelque temps plus tard, à Milan, en Italie, la mère d'Augustin force son fils à abandonner sa concubine et elle arrange son remariage avec une jeune fille. Cependant, Augustin devra attendre 2 ans que sa fiancée atteigne la majorité, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs d'avoir une relation sexuelle avec une autre femme. Mais dès l'été 386, sous l'influence d'un évêque, Ambroise, évêque de Milan, Augustin décide de se convertir au christianisme. Visiblement, il continue de croire à certaines philosophies, au néoplatonisme, fondée principalement sur l'enseignement de Platon et aussi sur le mysticisme oriental, avec la généralisation, et c'est très intéressant, la généralisation d'une lecture allégorique des Écritures suivant le modèle préconisé précisément par Ambroise de Milan. Puis il abandonne son poste d'enseignant à Milan, il renonce à toute idée de mariage et il se consacre alors entièrement au sacerdoce catholique et au célibat. Et c'est intéressant parce que c'est à cette époque qu'il conclut que le sexe finalement est une mauvaise chose. Dans ses confessions autobiographiques, il décrit ses pulsions sexuelles en utilisant un langage comportant des images très négatives, des images de maladie, de désordre, de corruption. Il comparait en fait le désir sexuel à de la boue, littéralement, à un tourbillon, à des chaînes, à des épines, un chaudron à vision. Cette façon de penser, du reste, a eu une très grande influence sur la doctrine du mariage et du sexe dans l'Église romaine. Or, nous savons pourtant que Dieu a créé le sexe. C'est lui qui a créé le sexe, et afin qu'il soit utilisé précisément dans le cadre du mariage, une autre institution divine. Alors, pourquoi Augustin en est-il arrivé à de telles conclusions? Eh bien, un pasteur de l'Église de Dieu, éminent, Herbert Armstrong, l'explique dans son ouvrage intitulé « La dix dimensions manquantes dans le sexe ». Et il écrit ceci à propos d'Augustin. « La conscience d'Augustin était rongée par la culpabilité de sa fornication et de ses vices sexuels. Il ne s'est jamais marié. Il a largement influencé l'instauration du célibat sacerdotal. Il n'était pas dépourvu, pourtant, d'expériences sexuelles quantitatives, mais il semble qu'il n'ait jamais fait l'expérience du don de l'amour dans le mariage. Il ne savait rien, en fait, de ses joies heureuses et généreuses. Tout ce qu'il connaissait par expérience, c'était un désir égoïste démesuré, suivi des tourments de sa conscience qui, selon lui, le condamnait et le culpabilisait. » Fin de citation. Alors ici, il est question de fornication dans la vie d'Augustin d'Hippone, c'est-à-dire le sexe avant le mariage, qui est un péché, de même que l'adultère, mais le sexe dans le mariage, par contre, nous savons très bien que ce n'est ni mal ni péché. Pourtant, Augustin d'Hippone a promu cette idée que toute utilisation du sexe, y compris le sexe dans le mariage, était mauvaise et qu'elle n'était nécessaire que pour la procréation. Autant d'idées qui feront florès des siècles plus tard, toujours dans les foies catholiques et parfois même dans certains courants protestants. C'est d'autant plus curieux que nous savons, d'après la Bible, que c'est Dieu qui non seulement a créé le sexe, mais qui l'a conçu pour que, dans le cadre exclusif du mariage, il soit un cadeau et un bienfait pour l'humanité. Alors, une autre grande influence d'Augustin sur la doctrine catholique concerne le culte marial. La Bible nous dit clairement que lorsque nous prions, nous devons nous adresser à notre Père céleste. Pourtant, des millions de personnes de nos jours sont invitées à prier Marie, Mère de Jésus. D'où vient cette affirmation? Vous l'avez deviné, d'Augustin d'Hippone. En fait, Augustin a même écrit une prière adressée à Marie et qui lui demande son secours pour les misérables, les découragés, les affligés, pour le clergé aussi, et qui lui demande d'intercéder auprès de Dieu pour toutes les femmes qui lui sont consacrées. Le souci avec cette injonction d'Augustin, c'est que Marie ne peut pas être notre médiatrice puisqu'elle est morte dans la tombe et qu'elle attend encore aujourd'hui la résurrection avec tous les saints. Comment le savons-nous? Mais parce que c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, et non pas un philosophe. Reportons-nous à Jean, chapitre 3 et le verset 13. L'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 13. Nous avons une déclaration très claire. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Alors bien sûr, certains pourraient dire, mais cela a été écrit du vivant de Christ. Sur terre, avant la résurrection de Christ. Alors d'abord, non, l'évangile selon Jean a été rédigé après la résurrection de Christ. Et ensuite, reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous parle de la résurrection précisément. 1 Corinthiens chapitre 15 et allons au verset 51. Pour plus de détails ici, Paul dit ceci aux Corinthiens, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à la résurrection. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Notez bien, « La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Alors, un peu d'explication pour clarifier ce verset. Tout d'abord, que veut dire « à la dernière trompette » C'est la trompette de Dieu, celle du temps de la fin que toute l'humanité vivante à cette époque entendra. C'est le moment du retour de Jésus sur terre. Dans Actes chapitre 2, verset 34, nous lisons que David n'est point monté au ciel. Or, Jésus nous a dit que David régnera pourtant sur les 12 tribus d'Israël à l'avenir. Et quand tous les saints seront alors ressuscités, ils se lèveront de leur sommeil, et avec eux, Marie, mère de Jésus. Donc aujourd'hui, comme à l'époque d'Augustin, Marie ne peut pas entendre maintenant une prière, ni même intercéder, puisqu'elle attend encore, dans le sommeil de la mort, elle attend encore sa résurrection. Alors, qui intercède suite à nos prières? Eh bien c'est Jésus, notre Seigneur. Il est fils de Dieu, il siège à la droite de notre Père éternel. Jésus est notre intercesseur. Comment le savons-nous? Allons dans Romains, chapitre 8, verset 34. Romains, juste avant 1 Corinthiens. Romains, chapitre 8, et le verset 34. Verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Voilà qui est clair. Donc aujourd'hui, comme à l'époque d'Augustin, Marie ne peut pas entendre une prière. Et c'est Dieu, c'est notre Père céleste, notre Père éternel qui répond à nos prières, car Jésus nous a dit de prier le Père. Donc allons dans Matthieu chapitre 6, où nous avons le Notre Père précisément. Matthieu chapitre 6. Je pense que nous connaissons tous le Notre Père, même de notre enfance. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc c'est notre Père céleste qui répond à nos prières, qui exauce nos prières. Non pas que ce soit une mauvaise chose que de prier le Fils de Dieu, Jésus, puisqu'il entend, il est là, il nous voit, il écoute nos prières. Christ est vivant aujourd'hui, il est notre intercesseur, notre avocat auprès du Père. Toutefois, il nous demande de prier notre Père et de demander tout ce que nous souhaitons demander en son nom, au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, de croire avec foi que tout ce que nous demandons en son nom, eh bien c'est comme si nous l'avions déjà reçu. Et Jésus, notre frère aîné, se fait fort d'intercéder précisément auprès de notre Père. Il se fait notre avocat, ayant vécu lui-même dans la chair ce que nous vivons aujourd'hui dans nos vies, nos douleurs, nos difficultés. Il est d'autant plus qualifié, donc, pour intercéder auprès du Père et pour obtenir toutes les réponses factuelles et miséricordieuses à tous nos besoins, légitimes, compréhensibles, petits et grands. Enfin, qui est celui qui défend l'orphelin, la veuve, l'étranger, le pauvre, le démuni, celui qui est abattu, celui qui est maltraité ou méprisé? Qui défend cet homme? Aujourd'hui comme hier, c'est Dieu qui est le défenseur de l'orphelin et de la veuve. Allons dans Psaume 68. Le psaume, 68e psaume, qui en parle de façon merveilleuse, psaume 68, et allons directement au verset 5, psaume 68, verset 5. Verset 6 plutôt. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc Dieu lui-même défend la veuve, l'orphelin, le démuni et le malheureux. Est-ce Marie? Non. Non, ce n'est pas Marie, ce n'est pas elle. Si Marie était ressuscitée, alors oui, elle serait déjà un être spirituel divin d'une grande puissance, comme tous les saints lors de la résurrection. Elle intercéderait, elle interviendrait, même directement auprès de ceux qui souffrent. Elle en aurait certainement le pouvoir, la puissance et le désir. Mais tel n'est pas encore le cas. Tel n'est pas encore le cas. Ce jour viendra, et dès le moment du retour de Christ sur terre. Et ce jour-là sera un jour de grandes et de merveilleuses retrouvailles pour tous et pour toutes parmi les ressuscités. Augustin d'Hippone a écrit plusieurs ouvrages, dont le livre, sans doute le plus connu, intitulé « La cité de Dieu ». C'est un texte révélateur. Pourquoi ? Parce qu'il décrit sa conception de l'Église et du royaume de Dieu. L'historien John Neville Figgis a examiné à la loupe le livre d'Augustin d'Hippone, « La cité de Dieu », et les conclusions de cet historien sont édifiantes. Il les a rassemblées dans son traité critique intitulé « Les aspects politiques de la cité de Dieu » d'Augustin. Et il écrit ceci, page 68, « Augustin, selon toute vraisemblance, semble être le premier des pères de l'Église à déclarer que l'Église est le royaume de Dieu sur terre. Le passage le plus important est celui du livre 20, chapitre 9, où Augustin y défend l'identification de l'Église avec les dirigeants de l'Église assis sur des trônes et avec le royaume millénaire, par opposition à la doctrine des chiliastes qui croient au millénaire. Alors cela est pourtant contraire à ce que nous dit le texte biblique fondateur dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Allons dans Apocalypse, chapitre 20 et le verset 6, pratiquement l'avant-avant-dernier chapitre de la Bible. Apocalypse, chapitre 20 et le verset 6, où il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Encore une fois, cette première résurrection se produit lors de la seconde venue de Christ. Et c'est à ce moment-là que les saints ressuscités régneront avec lui pendant le millénium. Augustin avait donc tort. Le millénium ne peut pas faire référence ni à l'Église catholique, ni à ses évêques. En effet, d'une part, la Bible dit d'une façon limpide, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Aucun membre de l'Église catholique ayant vécu au IVe siècle n'est encore en vie et ne règne sur un trône. Tout ceci n'est donc qu'une fabrication basée sur les idées d'un philosophe rhéteur fortement influencé par une pensée syncrétiste, un mélange de philosophies, refusant le fondement biblique comme prévalant sur ce que certains voudraient y ajouter et qui ne vient que de l'adversaire, en fait, qui ne vient que de Satan lui-même. Mais les membres de l'Église de Dieu n'ont jamais accepté ces croyances introduites dans une autre Église se disant chrétienne. Et à cause de la persécution soufferte en raison de leurs croyances, pourtant apprises de Jésus lui-même et des apôtres, et non pas d'hommes, non pas de philosophes, non pas de rhéteurs. Donc les fidèles partisans de la vérité ont dû fuir, ils ont dû se cacher dans des zones plus calmes afin d'observer la vraie doctrine et afin de vivre en paix jusqu'au retour de Christ. Dans son ouvrage intitulé « L'Église des pèlerins », Edmond Brandbent a écrit ceci. L'union de l'Église et de l'État a toujours été considérée par de nombreux disciples du Seigneur comme contraire à son enseignement. Mais à chaque fois que l'Église avait le pouvoir de l'État à sa disposition, elle l'utilisait pour réprimer par la force physique quiconque était en désaccord avec son système ou quiconque refusait de se conformer de quelque manière que ce soit à ses exigences et à un grand nombre par indifférence, par intérêt ou par peur, ou au moins ont au moins consenti à une obéissance extérieure. Autrement dit, en apparence. Il continue en disant, il y avait cependant toujours des gens qui ne pouvaient pas être incités à le faire et qui s'efforçaient quand même de suivre Christ et de garder les enseignements de sa parole et la doctrine des apôtres. Ceci était continuellement l'objet de persécutions. Edmond Brandbent a ensuite donné des détails sur cette persécution et sur l'endroit où on a pu retrouver la trace de l'Église de Dieu. Il écrit ceci, « Les mouvements de réveil n'ont jamais cessé de se répéter, et même lorsque aucun lien entre l'un et l'autre n'est visible, la cause sous-jacente est toujours la même, un désir de revenir à la pratique de certaines vérités du Nouveau Testament. Dans les premiers siècles, l'Asie mineure et l'Arménie ont souvent été le théâtre de tels réveils, tout en étant le refuge d'églises qui avaient, dès le début, à des degrés divers, maintenu la pureté de la doctrine et la piété de la vie. » Brandbent continue, il a également noté ceci. Il dit « Depuis Mani, alors Mani était d'origine perse, et il était le fondateur au IIIe siècle du manichéisme, la religion initiale dans laquelle Augustin d'Hippone, rappelez-vous, avait été formé. Depuis Mani, écrit Edmond Brandbent, les églises des croyants qui se distinguaient ainsi des autres, qu'ils appelaient romains ou églises romaines, l'église catholique romaine, ont toujours été accusées d'être manichéennes. Donc les églises romaines accusent ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu d'être manichéens. C'est assez curieux. Bien qu'elles aient prétendu ne pas l'être, hein, ces églises se défendent, et si elles suivent les doctrines de Christ et des apôtres, elles ne sont pas manichéennes, évidemment. Bien qu'elles aient prétendu ne pas l'être et se soient plaintes de l'injustice qui leur était faite de leur attribuer des doctrines qu'elles ne soutenaient pas. Et comme les écrits qui nous restent de ces chrétiens, en petit nombre, ne contiennent aucune trace de manichéisme, il est raisonnable, conclut Edmond Brandbent, il est raisonnable de croire qu'il n'en était pas partisan. C'est logique. Loin d'accepter les noms sectaires qu'on leur donnait, sans surprise, si généreusement, ces gens non seulement se disaient individuellement chrétiens ou frères, mais ils prétendaient aussi être collectivement la sainte, universelle et apostolique Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme l'éloignement des Écritures des églises mondaines, grecques, latine, arménienne devenait de plus en plus flagrant, il leur refusait le titre d'église, déclarant qu'elles l'avaient perdu par leur union avec l'État. Donc dès qu'une église s'associe à l'État, elle devient une église du monde, autrement dit une église mondaine. Et en plus, elle associe à cela, elle demande la force physique pour littéralement généraliser sa foi au détriment de tout ce qui peut éventuellement observer, et en particulier la doctrine de Christ et la doctrine des apôtres. Il leur refusait le titre d'Église, déclarant qu'elle l'avait perdu par leur union avec l'État, par l'introduction d'incroyants dans leur milieu, par le système du baptême des enfants, typique de l'Église catholique, par le fait qu'ils donnaient la Sainte Cène aux incroyants, et par divers autres maux qu'ils avaient introduits. On les appelait aussi, donc ces églises qui sortaient des églises mondaines, qui ne se mélangeaient pas avec des églises qui se compromettaient avec l'État, on les appelait aussi ceux de Tonrac, d'après une localité où ils étaient nombreux à une époque. et les persécutions auxquelles ils furent soumis, et la destruction systématique de leur littérature, c'est aussi un méfait qui est littéralement très connu au cours de l'histoire. La grande Église ne cesse de détruire la trace de ceux qui veulent suivre les doctrines de Christ et des apôtres. La destruction systématique de leur littérature nous cache à peine quelques bribes de leur histoire, bien que ce qui reste soit suffisant pour montrer qu'il y avait dans ces vastes régions d'Asie mineure et d'Arménie, autour du mont Ararat et au-delà de l'Euphrate, des églises de croyants baptisés, disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui gardaient l'enseignement des apôtres du Christ et contenu dans les Écritures, dans un témoignage ininterrompu depuis le début. Alors bien sûr, tous les groupes persécutés que l'on trouve dans l'histoire ne faisaient pas partie nécessairement de la véritable Église. Tout comme aujourd'hui, quand les gens entendent parler de l'Église de Dieu, ils se demandent laquelle. Il y en a beaucoup. Beaucoup de ces groupes se réunissent aussi le dimanche, au lieu du septième jour, au lieu du jour du sabbat, le samedi. Mais même si elle était petite, même si elle était cachée à certains moments, la véritable Église de Dieu n'a jamais disparu. Et comme le Christ l'avait effectivement promis dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Alors en attendant ces temps difficiles, serait-il utile pour nous d'être avertis dès maintenant à propos de quelques-unes de ces fausses doctrines promues par ou professées par Augustin d'Hippone, celui que les catholiques appellent saint Augustin? Absolument, absolument, nous avons besoin d'être avertis à propos de ces fausses doctrines. Non seulement Augustin a enseigné que le sexe est mauvais, non seulement il a inspiré les décisions de l'Église catholique au sujet du célibat des prêtres, des moines, des nonnes, provoquant aussi de façon évidente les désordres, les scandales à répétition que l'on peut constater tout au long de l'histoire, y compris jusqu'à nos jours. Non seulement Augustin a initié le culte marial, enseignant que Marie peut nous entendre maintenant et qu'elle a toujours été en mesure de recevoir les demandes des chrétiens, ce qui est faux, puisque justement elle ne peut pas les entendre avant sa résurrection toujours future. Elle est encore future, sa résurrection, de même que celle de tous les saints. Dans cette attente, Dieu seul et son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, peuvent entendre nos prières. Non seulement ces quelques exemples de fausses doctrines chrétiennes, mais Augustin en a ajouté encore bien d'autres, en contradiction avec la véritable doctrine chrétienne, qui, elle, est entièrement et simplement basée sur la Bible, la parole de Dieu. Par exemple, qu'en est-il de la doctrine du péché originel enseignée par l'Église catholique? Vient-elle réellement de la Bible? Ou aurait-elle été fabriquée par certains philosophes, certains rhéteurs, certains discuteurs de ce siècle? Alors, bien que l'idée de cette doctrine remonte à plusieurs auteurs catholiques des premiers temps de l'Église romaine, le théologien qui fit plus que tous les autres pour développer cet enseignement, oui, c'est bien Augustin d'Hippone. Cette doctrine s'appuie, comme nous le savons, sur l'histoire d'Adam et Ève, contenue dans le livre de la Genèse. Elle interprète le choix d'Adam de goûter du fruit défendu comme ayant changé sa nature, qui devint foncièrement déformée et corrompue. Ce changement ne toucha pas qu'Adam. D'après Augustin et bien d'autres auteurs, du fait de son péché, le péché originel, Adam et tous les humains après lui sont tombés en disgrâce, d'où l'idée de la chute de l'homme. D'après cette optique, le péché serait en sorte une sorte de maladie transmise, de génération en génération, des parents aux enfants avant leur naissance. La chute d'Adam est aussi devenue celle de tous ceux qui sont sortis de ses reins, l'espèce humaine dans sa totalité. D'après cette doctrine, les descendants d'Adam et Ève auraient hérité non seulement de la nature d'Adam, mais aussi de son péché. Et c'est là le point important de cette doctrine qui est justement sujet à caution. Le péché d'Adam, ou le péché originel, comme on l'appelle communément, serait une sorte de souillure de l'âme attachée à tout être humain dès sa naissance, alors qu'il n'a encore rien fait, transmise automatiquement par ses parents biologiques. Mais d'où cela vient-il? Ça ne vient pas de la Bible. La Bible ne déclare pas une telle chose. Autrement dit, les petits nouveau-nés, d'après cette doctrine, naîtraient coupables de péché, déjà. Et quand on regarde un petit bébé, mais franchement, mais qui peut voir dans cet enfant innocent un pécheur? Un être digne de châtiment? Vraiment? Comment peut-on concevoir sainement une telle doctrine? Franchement. Et en plus de ça, comment peut-on l'enseigner? Cette doctrine du péché originel a été, qui plus est, adoptée par une multitude d'autres églises et d'autres chapelles dites chrétiennes et qui y croient également, sans donner la priorité à la parole de Dieu une fois de plus. Mais d'où provient cette croyance? Les bébés héritent-ils du péché en naissant, rien qu'à la naissance? Est-ce que la Bible enseigne une telle chose? Nous savons que la Bible enseigne la droiture, la justice, elle enseigne aussi la douceur, la gentillesse. Alors, comment ces choses sont-elles possibles? Vous savez, beaucoup de dénominations qui, officiellement chrétiennes qui croient au péché originel encouragent le baptême des petits bébés. Il y a plusieurs raisons invoquées de nos jours, quand on consulte les sites qui font la promotion du baptême des petits bébés. Par exemple, c'est un engagement, nous est-il dit, un engagement éducatif des parents. Il y a plusieurs... Alors, si vous voulez, ce serait pour guider. Ce serait pour guider le bébé dans ses premiers pas, le baptême. Ne me demandez pas comment, je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne le sais pas plus que vous. Une autre raison serait que le baptême d'un bébé serait une occasion de fête dans la communauté du Christ. Bon, ça, on peut le comprendre, par contre. Sauf que Christ a été baptisé à l'âge adulte. Pourquoi ne l'a-t-il pas été dès sa naissance? Pourquoi Christ, le rocher d'Israël, n'a-t-il pas inclus une telle fête parmi les siennes, les fêtes de Dieu? Pourquoi ajouter, qui plus est, une doctrine qui détourne le chrétien du véritable objectif du baptême? C'est pas n'importe quoi le baptême, c'est sérieux. C'est l'engagement du futur baptisé pleinement conscient, dans toute son intelligence, dans toute sa conscience, de la solennité de son acte volontaire, de se faire lui-même la propriété de Dieu. Maintenant j'appartiens à Dieu, maintenant ma vie est dédiée au service de Dieu et au service de mes frères et sœurs, en Christ. C'est important le baptême. Comment cela pourrait-il être la décision d'un petit bébé? Nous avons un problème là, un problème sérieux. Vous savez, Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas dans la conversion chrétienne. L'Évangile le prouve. Une autre raison invoquée pour promouvoir le baptême des petits bébés, il faut absolument, nous est-il dit, que les enfants nouveau-nés puissent avoir des parrains et des marraines. Au plus tôt, pour aider les parents. Alors, est-ce que cela veut dire que certains parents seraient dans l'incapacité de développer tout l'amour nécessaire pour s'occuper de leurs enfants? L'amour dont leurs enfants auraient évidemment besoin. Il peut y avoir des cas particuliers. C'est vrai, il peut y avoir des parents indignes. Malheureusement, cela existe. Mais ce sont des cas extrêmes, dans lesquels le système judiciaire actuel prévoit en général une mise sous tutelle des mineurs. Sinon, eh bien, on pourrait comprendre peut-être que ce ne serait que symbolique, au cas où. Mais à ce moment-là, pourquoi faire? En fait, cette étrange tradition ne fait que souligner la faiblesse de ce que la structure familiale est devenue au fil des siècles. Avec le parrainage, on fait appel à une sorte de béquille sociétale, ni plus ni moins, à un remplacement éventuel des parents. Ce n'est ni plus ni moins qu'une intrusion dans l'intimité de la cellule familiale, fondamentale, composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. et qui, dans des circonstances normales, n'ont nullement besoin de parrains et de marraines. Et puis, cinquième raison évoquée, finalement, nous y arrivons. Baptiser son enfant bébé serait le moyen de le laver du péché originel. Ce baptême, qui est effectué en versant de l'eau sur la tête du petit enfant, un petit peu d'eau, aurait pour raison l'élimination du péché originel. Mais où une telle doctrine est-elle instituée dans la Bible ? Dans la parole scellée et clôturée de Dieu. Nulle part. Nulle part. C'est une invention enseignée aux frais et aux risques de ceux qui l'ont conçue et de ceux qui l'enseignent. Et une grande partie du christianisme adhère à ces idées, à ces traditions, sans vraiment réfléchir à leurs fondements. Beaucoup de chrétiens se posent quand même des questions. Comme je venais de l'expliquer, ils réfléchissent et ils se demandent, malgré tout, où trouver les réponses. Et encore une fois, c'est tout à fait naturel. Il est normal de poser des questions. Le Nouveau Testament n'est pas un livre d'instructions difficiles. Il parle à notre cœur. Il faut simplement le lire et le méditer, méditer sur la Bible, méditer sur le Nouveau Testament avec un esprit logique et critique. Nous ne devons pas gober n'importe quoi, n'importe comment. Les choses se déroulent logiquement. Elles s'expliquent les unes avec les autres. Il y a une construction solide qui est en fait le fruit du travail de Dieu. Et c'est là que nous devons nous concentrer. C'est là que nous devons plonger nos regards et véritablement être enseignés par Dieu, être enseignés par Christ. Parallèlement, lorsque nous entendons telle ou telle doctrine, qu'elle soit considérée d'ailleurs comme ancienne ou même comme toute nouvelle. Que devons-nous faire ? Il faut se demander si cette doctrine s'appuie fermement sur la Bible. C'est la chose que nous devons faire. Nous devons faire cette preuve. Souvent, certaines croyances ne s'appuient que sur des opinions personnelles, sur des philosophies, bref, sur des idées, sur des traditions humaines parfois infondées, et non pas sur la parole inspirée de Dieu. Alors c'est l'un ou l'autre. Que nous faut-il choisir ? Eh bien justement, il nous faut, sur un plan personnel, établir cette distinction. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est les traditions des hommes. Et Christ l'a fait. Il nous a montré l'exemple. Reportons-nous un instant à Marc chapitre 7, verset 9. Évangile selon Marc, chapitre 7. Marc chapitre 7 et le verset 9. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc là, il y a un choix à faire. Marc chapitre 7, verset 9. Commençons maintenant la lecture, nous poursuivons la lecture au verset 6. Revenons au verset 6. Jésus s'adresse aux pharisiens et il leur dit ceci. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. » Et c'est exactement ce que Augustin d'Hippone faisait, notre cher saint Augustin, si prisé, si porté au nu par les érudits catholiques et les rhéteurs de ce siècle. Mais si Augustin avait eu, ne serait-ce qu'une once de Saint-Esprit, il aurait immédiatement compris que les philosophies qu'il professait entraient en conflit directement avec les avertissements du Christ, que ce soit au sujet du commandement sur le sabbat, sur le célibat des prêtres, sur les prières adressées aux morts, et ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle Christ a demandé à l'apôtre Jean de sceller le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. C'est un avertissement général qui est finalement proclamé avec amour. Un avertissement. dans l'intention évidente de voir les contempteurs éventuels redoubler de prudence, renoncer à de telles folies consistant à changer la sainte doctrine de Dieu. De quel droit ? Il faut faire attention. Comment pourrait-on être plus clair ? Et je vais encore le lire une dernière fois. Non, je dirais plutôt, je vais le relire une fois de plus. Dans les derniers versets de la Bible, Apocalypse, chapitre 22 et le verset 18. Apocalypse, chapitre 22 et le verset 18. Je le déclare, c'est Jésus-Christ qui parle. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc faisons attention, nous mettons en danger, si nous ajoutons des choses à la Bible, nous mettons en danger notre vie éternelle. Dieu seul peut ajouter quelque chose à sa propre parole. Or, par ce scellement prononcé par le Fils de Dieu, nous savons maintenant que nous avons tout le corpus nécessaire pour nous, tout le mode d'emploi de la vie, toute la fondation scripturaire indispensable pour pouvoir croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après, ce que nous pouvons éventuellement ajouter, eh bien, ce sont tous les outils nécessaires pour construire sur la fondation des outils qui sont corroborés par la Bible, sans la moindre contradiction possible. Tous les articles de presse, les sermons, les commentaires vidéo, les interviews, ces choses qui s'appuient sur la Bible, sur les versets bibliques. Toutes nos productions littéraires, toutes nos productions médiatiques sont soigneusement vérifiées. Elles sont vérifiées par notre comité de la doctrine. Cela fait partie de notre grande mission de prédication de la bonne nouvelle du rétablissement du royaume de Dieu à venir sur terre. Individuellement, nous ne sommes pas très importants, certes, mais collectivement, nous représentons le corps du Christ, l'Église de Dieu, appelée par notre Père et Créateur céleste pour remplir la mission confiée aux apôtres dès les premiers temps de l'Église. Nous ne publions jamais quoi que ce soit qui puisse entrer en contradiction avec la Bible, avec la doctrine biblique de Dieu. Et nous étudions même chaque remarque qui pourrait nous être adressée, qui pourrait nous être faite par correspondance au sujet d'un article, au sujet d'une brochure, au sujet d'une présentation. Nous sommes reconnaissants des quelques signalements qui nous sont faits, que nous pouvons recevoir de façon régulière, et je suis heureux de pouvoir vous confirmer que je n'ai jamais vu, personnellement, je n'ai jamais vu un seul d'entre eux mettre en défaut la doctrine que nous prêchons. En revanche, je peux vous assurer que nous nous efforçons toujours de répondre à toutes les questions, notamment par notre département de la correspondance personnelle, ainsi qu'aux remarques qui pourraient nous être faites, avec, bien sûr, et dans un état d'esprit constructif, dans un état d'esprit positif et bienveillant. Nous savons bien, nous-mêmes, qu'aucun être humain n'a le droit de changer la sainte doctrine de Dieu. De même, aucun être angélique n'a ce pouvoir, ou n'a cette prérogative, plus exactement. Aucun être angélique ne saurait être dépositaire de telles initiatives, comme l'apôtre Paul le rappelle précisément dans Galates, chapitre 1. Allons dans son épître aux Galates, chapitre 1. Juste avant l'épître aux Éphésiens, Galates, chapitre 1. Et allons au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, écrit-il aux Galates, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, écrit-il, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, écoutez bien, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Notez-les bien. Celui, l'évangile, celui que nous vous avons prêché. L'évangile que nous vous avons prêché. Quel est-il? Eh bien, c'est la bonne nouvelle, précisément, du rétablissement du royaume sur terre, et que Christ lui-même a prêché. Les apôtres ne s'en sont pas écartés non plus. Ils n'ont pas essayé d'ajouter des philosophies, des opinions personnelles, des doctrines différentes de ce que Christ a prêché lui-même. L'apôtre Paul est toujours resté cohérent sur le fondement doctrinal de l'Ancien Testament et de celui posé par Jésus. Certains prétendent que Paul n'a pas prêché le royaume de Dieu. C'est faux. Paul a prêché le rétablissement du royaume de Dieu, comme l'indique Actes chapitre 28, verset 30. Je ne m'y reporte pas, je vais simplement citer le verset. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc c'est clair, il est dans la lignée logique de ce que Christ a prêché. Alors ces personnes disent aussi que Paul n'a prêché que la justification par la foi. Et c'est encore une fausse information, puisque Paul a clairement prêché que la loi et les commandements sont bons et justes. Et au final, que la loi et la grâce marchent main dans la main. Ils ne marchent pas l'un sans l'autre. Dès que l'on aborde le sujet du salut éternel. Bien au contraire, Paul a confirmé implicitement dans ses écrits ce que l'apôtre Jacques affirme explicitement. La foi sans les œuvres est morte. Donc nous avons, par la foi, nous sommes sauvés, mais si les œuvres ne sont pas là, si nous n'agissons pas pour obéir à Dieu, notre foi est à ce moment-là morte. Il y a une conjonction. La foi sans l'obéissance au commandement est une recette pour un échec spirituel total, c'est clair. Et les deux apôtres Paul et Jacques sont en parfait accord avec le sermon sur la montagne, la loi de Moïse et la doctrine de Christ. Le corpus biblique est en quelque sorte une seule pièce, un monolithe en quelque sorte, unique, merveilleusement cohérent, centré sur Christ, notre Seigneur. Il est la parole et non pas les paroles au pluriel. Il est la parole de Dieu. Je reviendrai en détail dans un prochain sermon sur le thème que je viens d'effleurer au sujet de la prédication de l'apôtre Paul. C'est en effet un tout autre sujet et je ne saurais l'aborder maintenant de façon consistante, donc je ne fais que l'évoquer. Mais revenons pour le moment à la question de la doctrine du péché originel. Premièrement, cette expression du péché originel ne se trouve nulle part dans la Bible. Vous pouvez chercher, vous ne le trouverez pas là. Elle a été inventée, elle a été en plus débattue bien des années après que la Bible ait fini d'être rédigée. Alors, bien sûr, le choix que Adam a fait, c'est clair, dans le 3e chapitre de la Genèse, était un péché. Donc, c'était le premier péché d'un homme. Nous sommes bien d'accord, de façon indiscutable. Ça, c'est vrai. Par contre, on ne trouve nulle part dans le récit de la Genèse, ni même dans le reste de la Bible, une déclaration affirmant que ses descendants seraient devenus coupables du péché d'Adam, de la faute d'Adam. Non. En fait, la première fois que le mot « péché » apparaît dans la Bible, déjà, c'est lorsque Dieu avertit Caïn, le fils d'Adam. Donc, juste après le premier péché d'Adam, Dieu parle à Caïn et il lui demande de ne pas succomber au péché. Il l'encourage. Caïn se retrouve irrité à cause d'une situation avec son frère Abel. Et Dieu lui dit ceci, « Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. » Il dit, « Toi, Caïn, domine sur lui, domine sur le péché. » Donc il lui donne sa responsabilité. Il est vrai aussi que le péché d'Adam a eu des répercussions sur ses descendants. Ça, c'est indiscutable, évidemment. Dans Genèse chapitre 3, verset 22, nous lisons ceci, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Autrement dit, l'homme s'arroge le droit de décider ce qui est bien comme l'un de nous. L'un de nous, c'est-à-dire Dieu et la parole. Il se fait notre égal et il décide ce qui est bien et ce qui est mal. Empêchons-le donc maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, qui était censé lui donner à l'homme la vie éternelle, afin qu'il n'en mange pas et afin qu'il ne vive pas éternellement. Donc Dieu a un autre plan, qui est évidemment le plan de salut. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, donc Dieu n'a pas abandonné l'homme, et afin qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. L'histoire n'est pas terminée. Donc à la lumière de la parole de Dieu, que voyons-nous? Premièrement, il est clair qu'Adam et Ève ont décidé à un moment donné de désobéir à Dieu. Ils ont décidé donc de pécher. Alors cela s'est produit après qu'ils aient été tentés de le faire par l'être qui a commis justement le tout premier péché dans l'univers, le véritable péché originel en fait, quand on y pense bien. Et il s'agit de Satan, bien sûr, le serpent ancien, l'ancien archange Lucifer, déchu de sa fonction auprès du trône de Dieu. Nous lisons ce récit notamment dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, c'est facile de s'en rappeler, hein, 2 fois 14 égale 28. Et puis, deuxièmement, tous les humains ont, depuis leurs ancêtres Adam et Ève, tous les humains ont commis la même erreur. Tous les humains ont péché. Le péché a continué de faire irruption dans l'humanité sans exception. Et chaque personne s'engage dans cette voie et de plein gré. Il y a cependant une seule exception, à la seule exception d'un seul homme, Jésus-Christ. Il n'a jamais péché. Nous lisons en effet dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, 2 Corinthiens 5, 21, sous la plume de l'apôtre Paul et sous l'inspiration divine, il écrit en effet que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a toujours été pur de tout péché. C'est le seul homme qui peut prétendre cela, jusqu'à la fin. Adam et Ève se sont écartés de Dieu. Ils ont décidé de désobéir, de pécher, ils ont cessé de bénéficier des bénédictions et du cadre parfait du jardin d'Éden, ils ont manqué l'occasion de vivre éternellement aussi. Et il ne fait aucun doute que le choix d'Adam a eu d'énormes répercussions sur l'histoire de ses descendants et sur toute l'humanité. Comme le dit l'Écriture dans Proverbes chapitre 1, verset 29, reportons-nous-y. Proverbes chapitre 1, verset 29. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Autrement dit, les choix d'Adam et de ses descendants, leur rejet de Dieu et de sa voix, ont obligé Dieu de les éloigner de lui. Notons bien ici que Dieu n'a pas empêché l'humanité de continuer dans cette voie. Mais bien au contraire, il leur a permis d'en mesurer toutes les conséquences et de se nourrir du fruit de leur voie, comme je le lisais, avec toutes les souffrances que cela sous-entend, puisque tous nous avons fait à un moment donné de notre vie non seulement le choix de la voie du péché, mais nous avons aussi persévéré dans cette voie. Nous ne sommes pas arrêtés comme ça. Juste après notre premier péché, ou à un moment donné dans notre vie, nous commettons tous, malgré tout, de temps en temps, des péchés. Quand nous le savons que nous devons éviter le péché, évidemment, il se raréfie dans nos vies, heureusement, mais il nous arrive de temps en temps de trébucher aussi. Cela peut arriver. Vous savez, souvent, les gens demandent, mais en voyant toutes les catastrophes qui peuvent arriver, où est Dieu ? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi y a-t-il de l'injustice dans le monde? L'ouragan Chido, qui vient de dévaster récemment l'île de Mayotte, dans l'océan Indien, à l'heure où je parle, le bilan définitif n'est toujours pas connu. Nous ne savons pas combien, peut-être des centaines, peut-être des milliers de morts. Les blessés, les sans-abri dont les habitations ont été détruites vont certainement se compter par centaines de milliers. C'est un désastre sans précédent pour les Mahorais, les habitants de l'île de Mayotte. Et une fois de plus, beaucoup se demandent, mais comment un Dieu d'amour pourrait-il permettre tous ces drames qui frappent même des enfants? La meilleure réponse est sans doute de considérer d'abord que, comme je le disais, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Dieu est plus fort que la mort. Son amour même est plus fort que la mort. Dieu possède un plan magistral pour nous tous, pour sauver toute l'humanité. L'expérience humaine est sur le point d'en arriver à son terme maintenant, en un temps où les leçons de l'histoire vont prouver, d'ailleurs d'une façon définitive, que décidément, l'homme ne peut se gouverner sans la présence de Dieu à ses côtés. L'homme, l'humanité, sans Dieu, n'est rien. Parce que le destin de l'homme, à partir du moment où il aura compris cette leçon de l'histoire de l'humanité, son destin sera de faire partie de la famille de Dieu, aux côtés de Dieu, aux côtés de son Fils. L'humanité, dans sa grande majorité, aura besoin de Dieu. Elle aura besoin du conseil de Dieu. D'abord, elle aura besoin de Dieu pour ressusciter, pour revenir à la vie, puisque c'est le destin de tout homme, de toute femme, de tout enfant également. Tous les morts ressusciteront. C'est écrit dans la Bible. À partir de là, il y aura cette connaissance de Dieu. Les gens connaîtront Dieu. Ils sauront qui est Dieu. Ils verront Dieu. Ils apprendront à le connaître. Lui, son Fils, notre frère aîné, qui lui-même est Dieu parmi les hommes, et il est venu naître pour mourir pour nous tous, pour toute l'humanité. Reportons-nous à l'épître de Paul aux Colossiens. C'est assez frappant, cette épître, car elle nous dit l'étendue de la divinité de Christ. Colossiens, chapitre 1, et commençons la lecture au verset 15. Colossiens, chapitre 1, et le verset 15. Quelques-uns. Alors. Colossiens chapitre 1. Je suis dans Philippiens, donc ça ne va pas marcher. Colossiens chapitre 1, verset 15. Voilà. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Vous voyez la puissance du Christ. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Tout a été créé par lui, par Christ, au nom du Père, et en particulier et surtout l'humanité. Donc la valeur de la vie du Fils de Dieu dépasse de loin la valeur de la somme de toutes les vies humaines ayant jamais existé. C'est pourquoi nous comprenons que le Fils de Dieu, notre Seigneur, est venu naître et mourir pour nous tous, pour nous racheter, pour toute l'humanité, afin que nous puissions précisément être rachetés et que nous puissions tous vivre maintenant, éternellement, enfin à partir du moment de la résurrection. Aujourd'hui, nous recevons les arts du Saint-Esprit, nous recevons les arts de la vie éternelle à travers le Saint-Esprit, mais nous, le but, c'est que toute l'humanité puisse vivre éternellement avec Dieu dans sa famille. Et c'est la conclusion heureuse du récit biblique, la bonne nouvelle, le message intemporel extraordinaire de notre Sauveur et grand frère, Jésus-Christ. Quand on étudie ce que la Bible enseigne à propos du péché, on s'aperçoit que pour Dieu, le péché, c'est un choix personnel humain. Autrement dit, le péché est toujours imputé comme la conséquence d'une décision, la décision d'un individu de transgresser la loi divine, qu'il soit un membre de l'humanité ou qu'il soit un membre des anges, de la communauté angélique. Les péchés d'un individu peuvent certainement affecter physiquement d'autres êtres humains, mais la culpabilité spirituelle retombe sur celui qui commet ces fautes. Du temps du prophète Ézéchiel, on avait coutume de dire que les enfants, même chose, les enfants héritaient des péchés de leurs ancêtres. Mais Dieu précisément réagit à cette tradition et il demande des comptes à la nation d'Israël et il dit ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 2. « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ?» C'est un passage fameux. « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. » Alors, pour Dieu, c'est un proverbe mal avisé. Et il s'est empressé d'ailleurs de réfuter ce proverbe dans les versets suivants. Finalement, nous lisons au verset 30 et au verset 20, dès le verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Donc, pourquoi dites-vous ce proverbe ? Les enfants auraient-ils hérité des péchés de leurs parents ? L'âme qui pêche, c'est celui qui est responsable, c'est celui qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Comment pourrait-on être plus clair ? La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu se fait extrêmement clair dans ce verset. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Donc voilà qui est clair. Pour Dieu, chaque personne est responsable de ses propres péchés, bien que les conséquences du péché puissent, c'est vrai, affecter les générations futures, par le biais de l'éducation, par le biais de l'exemple, du mauvais exemple. Dieu ne tient personne pour coupable des péchés des autres, et pas même celui d'Adam. Jésus a clairement indiqué que quiconque se livre au péché est esclave du péché, dit-il dans Jean chapitre 8, verset 34. On ne sait pas, on ne naît pas esclave du péché. Encore une fois, on le devient. On le devient quand on décide pour la première fois de commettre un péché. On se rend coupable de ses propres péchés. Ésaïe déclare dans son troisième chapitre, au verset 10, « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres futures. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, en définitive. Il recueillera le produit de ses mains. » Donc le principe, c'est un principe clair que nous connaissons tous, c'est que nous récoltons ce que nous semons. Nous récoltons ce que nous semons. Il y a un proverbe bien connu qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête, et qui sème le bon grain récoltera des récoltes abondantes. » Donc, le principe est extrêmement clarifié. Le passage qui, pourtant, dans la Bible, est le plus souvent cité pour soutenir la doctrine, la fausse doctrine du péché originel, c'est Romains chapitre 5, verset 12. Reportons-nous-y. Romains chapitre 5, verset 12. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, et le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, si on ne lit pas à partir de « et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes », si on ne lit pas le restant, la dernière partie que je viens de citer, cela pourrait donner l'impression que la mort s'est étendue sur tous les hommes à cause du péché d'un seul homme, Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. J'arrête là le récit. On a l'impression que c'est à cause du péché d'un seul homme, Adam. Or, les cinq derniers mots du verset disent ceci, « parce que tous ont péché ». Voilà la vraie raison. Tous ont péché. Donc chacun est tenu responsable de son péché personnel et des péchés qui s'en suivent. Donc là, le passage devient clair. Quand Adam, un seul homme, décida de pécher, le péché entra dans le monde et de ce fait, son amende, l'amende du péché, la mort, Romains, selon ce qui est dit dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, eh bien la mort qui est la conséquence du péché, s'est donc étendue sur tous les hommes. Pour quelle raison? Parce que tous ont péché. Il n'y a pas de péché d'Adam qui est responsable du fait que nous mourons. Non. C'est parce que tous, nous avons péché. Autrement dit, nous avons tous suivi l'exemple d'Adam et nous avons tous péché et de fait, nous récoltons le même châtiment que lui. Et cela, Paul l'a confirmé au troisième chapitre du même livre, l'Épître aux Romains, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous ne sommes pas donc nés avec une sorte de souillure, la souillure du péché d'Adam. Cela n'est pas dans la Bible. Certains philosophes le supposent, certains philosophes l'enseignent. En revanche, nous sommes nés dans un monde qui a suivi la même voie qu'Adam au Jardin d'Éden. Un monde qui veut agir à sa guise, qui est séparé de Dieu, qui aime le péché, donc un monde qui aime le péché sous toutes les formes, ses formes, et qui continue d'être séduit par l'adversaire, par Satan. Et cependant, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons sortir de l'attitude de ce monde, nous pouvons nous repentir, c'est-à-dire nous pouvons nous détourner de ses habitudes, de nos péchés, nous pouvons même être pardonnés, heureusement, grâce au sacrifice de Christ, lorsque, par inadvertance, nous péchons. Donc prendre cette décision, cela guide chacun de nous loin de la voie large et spacieuse ouverte par Adam, la voie facile, le flot, mais prendre cette décision nous permet d'emprunter avec l'aide de Dieu la voie étroite et resserrée dont Christ a parlé, inaugurée par Christ. Aller à contre-courant ou passer par la porte étroite, c'est beaucoup plus difficile, mais les fruits en valent la peine. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à cet effort, à cette lutte. Je referme maintenant ce chapitre sur le faux enseignement du péché originel dont Augustin d'Hippone, je le rappelle, s'est fait le promoteur le plus ardent. Je voudrais conclure ce cinquième épisode de l'histoire de l'Église de Dieu en disant ceci. Nous devons rester fermes dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans l'enseignement des Saintes Écritures, et nous devons prier pour être jugés dignes d'échapper à la grande détresse à venir. Cette grande détresse mettra enfin un terme à la désastreuse expérience humaine du gouvernement de l'homme sur l'homme sans Dieu. Pourquoi cela clôturera-t-il cette époque ? Parce que Dieu va intervenir dans les affaires de l'humanité. Ce sera en effet le moment glorieux du retour de Jésus. Et dans cette attente, tout comme le peuple de Dieu est resté fidèle aux enseignements de la Bible dans le passé, nous devons nous aussi rester fidèles aux vérités révélées dans la parole de Dieu. Ainsi, qu'il s'agisse des fausses idées d'Augustin d'Hippone, dès les âges sombres au cours des 4e et 5e siècles de notre ère, ou bien qu'il s'agisse des doctrines démoniaques qui seront répandues par la bête et par le faux prophète dans les temps à venir, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de nous défaire de tous ces faux enseignements et de nous ancrer dans le message solide prêché par Jésus-Christ, le pur message de la parole de Dieu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de sabbat et je vous dis à bientôt.